Alain Grégoire, bonjour. Vous êtes président de l'UMI Auvergne-Rhône-Alpes. Vous êtes hôtelier restaurateur depuis 2011 à Saint-Nectaire. Mais vous avez également été banquier pendant 25 ans. C'est peut-être la raison pour laquelle vous vous êtes livré à une analyse financière de la situation des assureurs français. À l'inverse de ce que déclarent tous les porte-paroles des assureurs, vous affirmez que leur secteur est en mesure de payer une partie significative des pertes d'exploitation des CHR dues à la pandémie. Est-ce que vous pouvez revenir rapidement sur votre démonstration?
Alors effectivement, depuis le 14 mars, nos établissements étant fermés, ceux qui ont un peu de compétences l'ont mis à profit pour défendre notre secteur d'activité. Alors, notre démonstration s'appuie simplement sur des faits, sur des chiffres qui ne peuvent aucunement être remis en cause, puisque les sources de nos travaux, ce sont des sources qui sortent de la Fédération française de l'assurance et des comptes sociaux des différents assureurs qui sont tous dans le top 10 des classements 2018 et 2019. Trois chiffres qui parleront à tout le monde. Le niveau de fonds propres des assureurs, on parle des assureurs dans l'activité dommage. Et je ne parle pas des assureurs en assurance vie, ça serait trop facile. En activité dommage, niveau de fonds propres, 57 milliards d'euros. L'encours des placements au 31-12-2018, c'est 196 milliards d'euros. Troisième élément, le fameux ratio de solvabilité, c'est le ratio qui permet à une compagnie d'assurance d'être en conformité par rapport aux exigences réglementaires. Grosso modo, il faut qu'il soit supérieur à 100 et bien au-delà, ce qui permet d'assurer quelque part une bonne conformité. Quand on regarde les principaux assureurs, je vais citer ceux qui ne jouent pas le jeu aujourd'hui. AXA est à 205%, Groupama est à 315%, Generali est à 196%. Voilà, la démonstration est faite. Ces indicateurs majeurs permettent aux compagnies d'assurance françaises de se placer en tête du classement mondial et de ce fait-là, en participant à l'effort de solidarité qu'on leur demande, un, ça ne remet nullement en cause leur ratio interne. Deux, ils seront toujours compétitifs au niveau européen et mondial. Et trois, ils feront face, nous l'espérons, enfin à leurs responsabilités.
Vous avez indiqué, précisé, que le coût global pour l'ensemble des secteurs d'activité qui pourraient être pris en charge par les assureurs serait de l'ordre de 35 milliards d'euros en année pleine. 35 milliards d'euros, c'est considérable, sachant que les assureurs, eux, disent que 40 milliards d'euros, ils sont déjà dans le rouge. Leurs actifs vont fondre. Les coûts que vous estimez de couverture pour le seul secteur de l'hôtellerie-restauration se montraient à environ 4 milliards d'euros, pas tout à fait 3 milliards 500 millions d'euros. Comment solutionner cette équation financière qui est objectivement, malgré les chiffres qui sont indéniables que vous venez de citer, comment résoudre cette équation financière?
Elle est facilement résolvable et les assureurs le savent bien. Il y a un bien fondé, un préambule, c'est la mutualisation des risques. La réponse des assureurs est de faire une réponse par segment d'activité. Certes, sur la partie des dommages des professionnels, ça ne serait pas jouable. Par contre, sur la mutualisation des risques, ça l'est complètement. Les 35 milliards d'euros dont vous parlez, c'est un chiffre qui est vérifié et vérifiable, peut se prendre en charge avec aucune difficulté de la part des assureurs. Vous savez, quand on rappelle le niveau de fonds propres que j'ai rappelé tout à l'heure, se dire qu'une allocation de fonds propres de moins 5% sur 3 ans est jouable, ça l'est. Réaliser entre 5 et 6% des plus-values latentes. Les plus-values latentes, c'est quoi? C'est des placements dans le bilan des assurances qui sont déjà techniquement positives. C'est réalisable. Et enfin, réaliser 5% sur 3 ans de réalisation, c'est-à-dire de vente d'actifs, de placements, quand on a 200 milliards en actifs, c'est réalisable. Ça ne remet rien en cause. Le ratio de solvabilité, certes, serait légèrement diminué, mais en aucun cas dégradé. Donc 35 milliards, c'est à peu près le coût pour l'ensemble des secteurs d'activité, vous avez raison, et c'est le chiffre qu'on a communiqué depuis 10 jours et il est crédible. Et d'ailleurs, je vois il n'a pas été remis en cause par les banquiers assureurs qui participent aujourd'hui à l'effort collectif. Et au niveau de la profession, alors c'est un peu moins que le chiffre que vous indiquiez. Précisément, il est 4,5 milliards. Il est de 330 millions pour les bars cafés. Il est d'1,2 milliard pour les restaurants. Il est d'1 milliard pour les hôtels. Et il est de 23 millions d'euros pour les discothèques. Ça, c'est le calcul précis. Nous avons pris quoi? Le chiffre d'affaires moyen d'un restaurant, c'est tant, mettons 200 000 euros. Les 3 mois d'inactivité en chiffre d'affaires, c'est tant. La marge brute d'un restaurant, c'est 75%. Vous en découlez la marge brute sur les 3 mois et vous mettez une prise en charge de cette marge brute à hauteur de 30% et vous tombez sur le chiffre que j'évoquais tout à l'heure d'1,2 milliard, etc., etc. Donc, nous avons travaillé, nous avons constitué un groupe d'experts autour de ma petite personne pour rendre des travaux cohérents au niveau de notre président confédéral et notre vice-président confédéral. Nous sommes droit dans nos bottes sur ce sujet-là et nous savons que nous avons raison sur notre démonstration. Le risque, il est né, il est là, aux assureurs de prendre les mesures qui s'imposent. Certains ont commencé à enclencher une démarche positive, mais je pense que nous y reviendrons tout à l'heure.
Absolument. Je vais vous relancer une dernière fois, hein, essayer de vous apporter la contradiction pour que vous livriez tous vos arguments. Comme vous le savez, le 22 avril, le régulateur de l'assurance, qui est l'autorité de contrôle prudentiel et de concurrence du secteur qui dépend de la Banque de France, donc le régulateur a rendu un avis qui était très attendu de cette profession, avis dans lequel l'autorité écrit, je la cite, « Les moyens financiers dont les assureurs disposent pour tenir l'ensemble des engagements qu'ils ont pris vis-à-vis de leurs assurés » et contribuer ainsi à amortir le choc économique provoqué par la pandémie, ne peuvent pas, sauf à les mettre en risque, être utilisés pour couvrir des événements qui sont explicitement exclus de leur contrat. Que répondez-vous à l'autorité de régulation, qui est une autorité indépendante ?
Qui est une autorité indépendante, et je vous l'accorde. Mais la CPR joue son rôle, dont acte. Mais j'ai envie de dire, pour imager, c'est comme l'instituteur qui met ses enfants dans la cour, les assureurs, et qui leur dit « attention, ne prenez pas froid ». Et puis, il insiste, et l'instituteur demande aux enfants de rentrer en classe. Et puis, la troisième version, ça sera « je vous ordonne ou je vous interdis de sortir dans la cour ». Donc, on en est à la position numéro 1. Mais l'autorité de régulation n'a pas la possibilité de prendre la deuxième et troisième étape de notre instituteur. Elle joue son rôle. Mais cette autorité-là, qui s'appelait différemment dans les années 90, et pourquoi je parle des années 90 ? Parce que dans les années 90, tous les Français se rappellent des tempêtes, des premières tempêtes que nous avons vécues au début des années 90. Et tout Français qui a été victime d'une tempête, que ce soit son territoire en France, n'avait pas de garantie tempête dans son contrat. Il avait une garantie incendie pour sa maison. La garantie tempête n'existait pas. Qu'ont fait les assureurs, qu'a fait l'État ? On s'est mis autour d'une table et rétroactivement, on a créé la garantie tempête de manière à ce que les milliers, les dizaines de milliers d'assurés n'aient pas à subir les conséquences de ce type d'événement. Deuxième exemple, les attentats des années 95. Pareil, la garantie attentat n'existait pas dans nos responsabilités civiles, comme la vôtre, la mienne. Elles ont été créées par décision de l'État, par des travaux avec les assureurs, rétroactivement, de façon à ce que les gens qui avaient subi dans leur chair de tels fléaux puissent être remboursés. Et bien nous disons la même chose sur la garantie d'épidémie. Il faut intégrer cette garantie, la rendre rétroactive et être dans le sens de la solidarité qui s'est exprimée il y a plus d'une trentaine d'années sur les deux événements que je vous citais à l'instant.
Malgré tout, la porte des assureurs semble rester ouverte. On peut citer au moins 3 compagnies qui vont indemniser leurs clients de la branche. Par exemple, Covéa, qui devrait indemniser près de 4000 restaurateurs pour un montant de plus de 100 millions d'euros. On pourrait citer la MAF, qui va verser, je crois, 190 millions d'euros à ses assurés de l'hôtellerie-restauration. Et dans ces deux cas de figure, les assurés disposaient d'un contrat couvrant les pertes d'exploitation, même si les pandémies n'étaient pas mentionnées dans les risques. Dans ces conditions, que conseillez-vous aux entreprises de la branche qui ont peut-être un contrat ad hoc ?
Il y a plusieurs questions dans votre questionnement. D'abord, comme vous disiez, à juste titre, la porte des assureurs semble malgré tout, grosso modo, rester ouverte. Mais je dirais, mais grâce à qui ? Grâce à qui ? Grâce au lobbying mise en place menée, orchestrée par l'UMI. L'ensemble des représentants, que ce soit les représentants de notre siège à Paris, les élus, que ce soit les présidents régionaux comme moi ou les présidents départementaux, les adhérents, rendez-vous compte qu'on a dû questionner nos adhérents pour connaître précisément le motif de refus des assureurs. Nous avons relevé, nous avons dans nos fichiers 10 000 adhérents qui ont répondu à notre questionnement avec un 100% de refus. C'est une honte. C'est une honte. Mais revenons aux questions que vous me posez. Donc la porte est ouverte grâce à notre lobbying. Le conseil que je donne aux entreprises de la branche, d'abord c'est un conseil réfléchi qui doit être le même qu'on doit donner à toute assurée. Assurez-vous. Assurez-vous, c'est une nécessité. Les agriculteurs doivent s'assurer du risque grêle, d'autres corporations doivent s'assurer de tels risques. Demain, plus aucun professionnel de l'hôtellerie-restauration sans contrat garantissant la perte d'exploitation. C'est une nécessité. Alors, vous avez cité certaines compagnies qui ont démarré en donnant l'exemple Covéa, qui rassemble trois assurances de notoriété, dont le groupe Banque Populaire Caisse d'Épargne, que vous n'avez pas cité. Et puis depuis, ces dernières heures, il y a trois jours, le groupe Crédit Mutuel CIC, c'est pas n'importe lequel, il pèse 18% du marché, a annoncé par la voix de son directeur général, de son président, je ne sais plus, qu'il soutenait et qu'il mettait en place la perte d'exploitation. J'ai son communiqué de presse sous les yeux du 22 avril. Ça a démarré au niveau du Crédit Mutuel CIC.
Oui, je ne les ai pas cités tous. Hein. Et le prêt CIC, la CIC Mutuel a aussi une approche un petit peu différente puisque elle va prendre la forme d'une aide à la relance de l'activité, il me semble.
Oui, cette aide, nous l'avons étudiée, bien entendu. Elle est labellisée comme ça pour ne pas faire de jeu de mots déplacés vis-à-vis de leurs confrères. Mais cette aide pour un restaurateur, pour reprendre leur communiqué de presse, qui a un chiffre d'affaires de 240 000 euros, touchera, pour reprendre leur terme, une prime de relance mutualiste de 11 500. Et bien, c'est 11 500, monsieur. Nous sommes arrivés pour le même restaurateur avec le même chiffre d'affaires à une garantie perte d'exploitation de 12 000 euros. Vous voyez, à quelques centaines d'euros près, nous sommes d'accord. Donc nos chiffres sont cohérents. Donc on parle de la même chose. Donc bravo au Crédit Mutuel CIC. Et depuis hier soir, j'ai pu remarquer que sur le site internet du Crédit Agricole, le groupe Crédit Agricole, qui représente une part de marché de une trentaine de pourcents sur le domaine des professionnels, prend ce même type de mesure. Alors je dirais aux Crédit Agricole, vu leur part de marché, c'est un effort plus léger que le groupe Crédit Mutuel CIC. Peut mieux faire, voilà. Mais la voie est là, elle est tracée, et bravo à eux. Par contre, puisque vous me posiez la question globale de ce que font également les assureurs, que fait AXA? Que fait Allianz? Que fait BNP Paribas? Generali? Groupama? Société Générale? Ces assureurs font partie du top 10. Quatre d'entre eux ont démarré, ont montré la voie, et bien j'invite les six autres à faire de même.
En tout cas, votre premier conseil à vos collègues, c'est de souscrire des assurances qui couvrent ces pertes d'exploitation. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui pour la majorité même de la profession.
Exactement. C'est le conseil le plus pertinent, le plus réfléchi, au même titre que tous mes confrères restaurateurs ou hôteliers ont des assurances sur leur immeuble, sur la clientèle du fonds de commerce lorsqu'on reçoit des groupes ou des séminaires, que ce soit sur leur matériel, que ce soit sur le risque alimentaire. Voilà, la perte d'exploitation doit être couverte, c'est trop dangereux de ne pas l'être.
Absolument. Quel rôle votre organisation peut-elle continuer de jouer auprès de vos adhérents? Un soutien technique, un soutien politique, voire même une action collective en justice?
Alors, cette question, à la limite, s'adresse plus à nos adhérents, mais moi, je suis adhérent également. Donc, je suis un peu mal placé, mais je dirais que l'UMI, au travers de ses départements, de ses salariés qui prennent des centaines de coups de fil tous les jours de la part de professionnels un peu désœuvrés, et puis aux abois, depuis le 14 mars, est mobilisée. Elle est mobilisée, donc on apporte naturellement un soutien technique, vous en parliez, soutien technique sur donner du sens aux mesures gouvernementales qui ont été prises, donner du sens aux mesures d'accès à la banque pour les prêts PGE par exemple, donner du sens aux mesures demain qui seront prises pour la réouverture, parce que soyons tournés vers demain également. Et puis un soutien politique, mais nous l'avons. Tous les présidents de région ont adressé des courriers à leurs députés sénateurs. Moi-même ici, c'est une centaine de courriers qui sont partis au niveau des 70 députés et 30 sénateurs. 85% d'entre eux ont répondu « merci ». Et dans leur réponse, c'est une affirmation véritable, franche, transparente, sur un soutien sans faille à notre désarroi et à nos conditions de pouvoir sortir de ce fléau le plus rapidement possible. Nous avons un soutien politique, nous avons un soutien de nos adhérents, nous avons un soutien de l'économie locale au travers de nos représentations patronales. Oui, s'il faut, je dis bien, je suis prudent, s'il faut, une action en justice n'est pas exclue.
C'est bien noté. Dernière question. Le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, a annoncé le 21 avril l'installation du groupe de travail sur le développement d'une couverture assurantielle des événements exceptionnels, dont les pandémies. On sait qu'en font partie les organisations patronales interprofessionnelles, donc la CPME et le MEDEF, auquel vous appartenez. Alors, quelles seront les contributions de l'UMI, vos propositions ?
Bien. Permettez, parce que là aussi ça demande une réaction par rapport à cette annonce de lancement de groupe de travail ou de travaux sur le futur dispositif. Effectivement, il est composé d'un certain nombre de partenaires. Nous avons un strapontin, j'allais dire. Nous avons un strapontin. Si je reprends les mots précis du communiqué de presse, un panel de représentants des entreprises, de parlementaires, de juristes, d'économistes, sera interrogé sur les objectifs et le dimensionnement que toutes ces parties prenantes attendent d'un tel dispositif.
D'accord.
Non, pas de strapontin. Nous souhaitons siéger à l'intérieur du groupe de travail pour amener des propositions, pour réaliser, amener une contrepartie, pour apporter notre savoir-faire, pour définir ce nouveau schéma d'assurabilité de demain, c'est nécessaire. Donc nous avons des solutions, nous avons des propositions. Il faut définir un contrat de perte d'exploitation sur les risques globaux et non plus trop restrictif, de manière à plus avoir ce cas de figure à revivre dans les années qui viennent. Et puis nous avons des propositions également, parce que nous parlerons de coûts financiers, de coûts à supporter, et quelle sera la contrepartie ou le rôle que pourront jouer les assureurs, l'État et les assurés naturellement. Nous ne ferons pas de politique de chaise vide. Nous demandons à être partie prenante de ce groupe de travail, mais pas de strapontin, pas être audité à part, pas avoir à remplir un sondage, non, être partie prenante. Et puis, in fine, participer à l'élaboration de véritables scénarios permettant d'apprécier la couverture demain d'une perte d'exploitation avec des garanties, et puis des garanties qui sont bien signifiées, qui sont bien tracées, de manière à éviter des lectures différenciantes, différenciées, de jouer sur les mots tels que c'est aujourd'hui.
Alain Grégoire, je vous remercie.
Et merci à vous de m'avoir interrogé sur cet aspect-là, et j'espère que ça rendra notre position tout à fait compréhensible et surtout tout à fait justifiée pour ceux qui nous entendent.